Chapitre 3e. L'appartement de Charles Castanier. Comme nous franchissions le couloir de la maison et mettions, Martin, Numa et moi, le pied sur le premier escalier, la concierge qui se précipita nous interpella. « Eh, messieurs, où allez-vous ? » Nous étions passés devant la loge sans rien dire. Martin Numa, à la vérité, avait par le vitrage jeté un coup d'œil, mais il continua sa route sans rien demander à la préposée au cordon. Elle redemanda « Chez qui allez-vous ? » Martin Numa, tout bas, lui répondit « Chez M. Castanier. Il n'est pas là. C'est pour cela même que nous venons chez lui. » Comme la concierge regardait avec ébahissement Martin Numa, celui-ci mit sous ses yeux une petite carte dont elle connaissait la signification, car aussitôt elle tressaillit. « Ah, bien, bien » balbutia-t-elle. « Oui, c'est bon, vous pouvez monter. Merci. » « Mais pour entrer chez M. Castanier, il faut des clés. »« Sans doute. Vous les avez ?»« Non, je m'en passerai. Il y a un verrou de sûreté. » Martin Numa eut un sourire. Il saisit la concierge par le bras et lui dit de son ton incisif « Vous avez du monde dans votre loge ?»« Oui, monsieur. » « Et naturellement, vous étiez en train de parler du drame qui s'est déroulé chez le père de votre locataire. »«
C'est vrai. »«
Parfait. Continuez. Seulement, vous ne soufflerez mot de ma présence ici. Vous ne direz pas qui je suis, chez qui je vais. »«
Non, monsieur, je me tairai. »«
Attendez. »« Je ne demande rien qui soit au-dessus des forces humaines. Vous vous tairez tant que je serai dans la maison. Après, quand je serai parti, vous vous rattraperez. Mais tant que je serai ici, silence. » « Entendez-vous ? Silence absolu. »«
Bien, monsieur, bien.
D'ailleurs, vous n'aurez pas trop à attendre. Une demi-heure, tout au plus. » La maison se trouvait rue d'Amsterdam. Elle était d'apparence moyenne. L'escalier indiquait le chemin d'appartement modeste, petit rentier, bourgeois ou employé, gens paisibles. Charles Castanier occupait là un appartement. Comment Martin Numa avait-il appris l'adresse de la maison, l'étage et la porte d'entrée de l'appartement ? Je ne m'en doutais pas, mais je ne m'avisais pas de l'interroger sur ce point. Ce qui me préoccupait en ce moment, c'était non pas de savoir comment il connaissait cette adresse de Charles Castanier, puisque nous étions dans la maison, c'était un fait acquis et en somme assez ordinaire, mais comment nous pénétrerions chez le fils du banquier, sans clé, sans enfoncer les portes, sans éveiller l'attention. Je brûlais du désir de savoir, et cependant, connaissant le caractère de mon ami, je n'osais lui faire de questions à ce sujet. Il pressentit sans doute mon désir, car il cessa de monter deux par deux les marches, et se penchant vers moi, il me dit « Charles Castanier habite ici. J'y suis venu déjà pour les diamants. Il n'a pour serviteur qu'une vieille femme de ménage qui vient le matin. Elle est venue aujourd'hui comme de coutume. Elle a fait son travail et elle est partie sans se douter probablement du rôle que joue son maître dans cet horrible drame. » Rue d'Amsterdam, Charles Castanier se trouvait tout près des cercles où il passait ses nuits, de la gare qui le menait au champ de course. Il était aussi sur le chemin que Blanche Morisson prenait pour rentrer chez ses parents, demeurant rue Moncey, à proximité en somme de la banque, où le papa Morisson tenait la caisse. Je connais de longue date ce roman. J'espère enfin que notre visite ne sera pas infructueuse, que nous ne ferons pas chou blanc.
Sans doute, mais, hasardai-je, comment ?
Allons-nous pénétrer chez Charles ? C'est ce que vous me demandez ?
Oui, j'avoue que sans clé, le verrou de sûreté, rien de plus simple.
Martin Numa sourit et ajouta. Un bon policier doit pouvoir être un bon cambrioleur. Nous allons entrer chez M. Castanier, puisque nous sommes venus pour cela, aussi facilement que si, à notre coup de sonnette, le locataire lui-même nous ouvrait la porte. Nous étions arrivés devant la porte de l'appartement de Charles Castanier. Martin Numa appuya la main contre les panneaux de la porte, pesa dessus afin de les tâter, de les ausculter pour ainsi dire.
« Bon, » fit-il, « fermé à clé de serrure habituelle et au verrou de sûreté, c'est parfait. »
Il prit dans sa poche une sorte de portefeuille assez volumineux. Il égalisa les tiges en les frappant sur le dos de sa main. Cela formait comme un faisceau de lamelles d'acier. Ce faisceau, il le glissa dans la gorge de cuivre qui affleurait à la porte, ouverture de verrou de sûreté, et poussa doucement, à petits coups. Puis il donna un tour de poignet. Un bruit de fer qui glisse se fit entendre.
« Voilà le verrou ouvert, » dit simplement Martin Numa.
Il me montra son instrument de cambrioleur. Les tiges, les lamelles d'acier, plus ou moins foncées, prenaient, comme si elles se moulaient sur les dents de la serrure, l'empreinte nécessaire. Elles entraient dans les creux, mordaient, et opéraient comme eût fait la clé elle-même. ce rossignol moderne style chante admirablement, dit Martin Numa. Quant à la serrure habituelle, c'est un jeu d'enfant. Il prit un nouvel outil dans sa trousse, le glissa dans la rainure de la porte, donna un coup sec. La porte s'ouvrit sans bruit tout naturellement. « Entrons, » dit-il, « nous voilà chez nous. » L'appartement se composait d'une antichambre et de deux pièces. De l'une, Charles Castanier avait fait un salon fumoir, de l'autre, sa chambre à coucher. L'appartement était très coquettement arrangé. « Main de femme, ici, » dit simplement Martin Numa. « Vous sentez ?» En entrant, en effet, on percevait une odeur agréable et douce. « Ce parfum imprécis et caressant, » me dit Martin Numa, qui flotte dans l'appartement, « indique plutôt que le simple passage de la femme ici, la présence régulière d'une femme. »« Je ne fais pas grande différence, » balbutiai-je. « Il y en a une très grande, cependant. » La senteur n'est plus la même quand dans un appartement plusieurs femmes sont venues ou quand une seule y séjourne. Après plusieurs, le parfum est, quoique toujours agréable, plus fort et impersonnel. C'est un mélange, un parfum multiple et anonyme. Quand c'est une seule femme qui vient là, l'arôme est partout le même et garde sa saveur spéciale, personnelle. Nous entrons dans le fumoir. Là encore, à de nombreux détails, se révélait la présence de la femme, non de celle qui ne fait que passer, mais de celle qui constamment revient, qui demeure là et se plaît à embellir son nid. Dans l'ameublement, des riens qui échappent aux hommes auxquels les tapissiers ne pensent pas. Des attaches en ruban, des coins de dentelle, un arrangement original, des fleurs, des plantes frêles en témoignaient. Martin Numa me dit encore « Je gage que la jeune femme qui a laissé ici de si douces traces de son passage est blonde, plutôt grande et mince. » Je regardai mon ami avec quelque étonnement. « Mon cher, lui dis-je, vous allez un peu loin dans vos pronostics. Passe pour le parfum du logis, mais devinez la taille, la couleur de celle qui l'habite, vraiment, c'est trop. Je vous fournirai la preuve de ce que j'avance. Tenez, d'abord cette jeune femme est grande. Voyez la portière ici est relevée très haut. » Martin Numa me désigna ensuite un fauteuil. C'est celui qu'elle préférait. Le coussin en bas du dossier m'indique que sa taille longue, par conséquent mince, avait besoin pour se bien reposer de cet appui, à cette place. Il n'y a pas de coussin de pied, donc les jambes reposaient sur le tapis, elles sont assez longues, c'est facile à juger. Tenez, voilà une paire de gants oubliés, voyez la longueur des doigts, c'est la main d'une femme plutôt grande. Si nous voulions pousser plus loin, nous établirions avec le creux du fauteuil la marque des pieds sur le tapis. La hauteur du relèvement de la portière et la pointure du gant, la taille exacte de la jeune femme. J'admets tout cela, mais où voyez-vous qu'elle est blonde? Partout. La couleur des tentures, des rideaux, ses rubans clairs sont pour une blonde. Je m'inclinai. Mais, reprit mon ami, ce n'est pas de cette jeune femme qu'il s'agit, mais de Charles Castanier, du pouce du fils du banquier qu'il faut découvrir. Cherchons. Sur le piano se trouvait la dernière partition ouverte, parcouru la veille, peut-être. Sur un guéridon, le rouleau de cuir dans lequel Blanche Morizon emportait les morceaux de piano pour les leçons de ses élèves. Au mur, quelques tableaux, des dessins, des photographies de chevaux. Sur la table de travail, près de la croisée, des journaux de sport, des cartes de champ de course, des tickets. Martin Numa s'était assis à cette table sur laquelle Charles Castanier écrivait. Il furetait, cherchait, examinait avec cette attention extrême qu'il apportait dans ses perquisitions. Puis il se leva, le front plissé. Il ne trouvait rien qui lui convînt. Alors il passa dans la chambre à coucher et chercha encore. « Nous venons un peu tard, » dit-il. « La femme de ménage a nettoyé, essuyé partout. Tout ce qui pouvait garder l'empreinte des mains, des doigts, les verres, tout est frotté, c'est désolant. » Tout en parlant, Martin Numa parcourait la pièce. Il souleva un rideau qui masquait une sorte d'alcôve dans laquelle se trouvait rangée toute une série de bottines et de souliers. Il avisa une paire de bottines vernies, les sortit du rayon et les examina minutieusement, puis il les replaça. Dans les basques d'une redingote qu'il tâta à tout hasard, il sentit un paquet assez gros. « Des gants oubliés, » dit-il, « c'est presque ce que nous venons chercher. » Il prit les gants, les mit dans sa poche et ayant jeté un coup d'œil dans la chambre à coucher, il revint dans le salon fumoir. Une seconde fois, il s'assit devant le bureau. Alors, il ne se contenta pas d'en examiner le dessus, les porte-plumes, les divers objets qui l'encombraient. Il fouilla dans le papier à lettres, ouvrit le buvard et les tiroirs. Un tiroir contenait plusieurs lettres que Martin Numa,
en voie d'indiscrétion, ne se fit aucun scrupule d'ouvrir et de lire. « S'il les a laissées, dit-il, c'est qu'elles n'offrent aucun caractère sérieux, mais à moi, elles peuvent fournir quelques indications, un éclaircissement, me mettre sur une voie. » Au bout de quelques minutes, il dit, remettant les papiers en place, « Réclamation de créanciers, mise en demeure de fournisseurs, menace. » « Je comprends. Charles Castanier était vraiment à bout. »
Martin Huma prit sur une feuille de papier quelques notes, puis il me demanda « Savez-vous l'anglais, Courville ?»«
Pas très bien. »
« Vous ne sauriez pas me traduire cette lettre ?»«
Je ne crois pas. » »«
C'est regrettable. » »«
Dans ce cas, comme je pense qu'elle me sera utile, je la garde. » »«
C'est une lettre qui vient d'Amérique. »«
D'Amérique ?»«
Et la lettre est datée de Détroit. » »«
Détroit, la ville rivale de Chicago. » »«
Parfaitement. Donc, Charles Castanier avait déjà, à l'époque où cette lettre lui parvint, il y a 6 mois, l'intention d'aller en Amérique. »«
Dans quel but ? Pourquoi faire ?»
Probablement, à ce moment déjà, il songeait à partir avec Blanche Morisson, à trouver pour elle aussi le moyen de gagner sa vie. Mais je le répète, c'est une simple supposition. En tout cas, j'ai déjà un point de départ. Je sais que Charles Castanier était en rapport avec une maison américaine, de Détroit. Et tout me porte à croire que c'est en Amérique que Charles Castanier et la fille de ce pauvre papa Morisson ont été chercher une vie nouvelle. Peu après, nous quittions l'appartement du fils du banquier. Martin Huma fermait la porte avec la même facilité qu'il l'avait ouverte, et nous descendions les escaliers. Arrivé devant la loge, Martin Huma se pencha vers la porte vitrée derrière laquelle la concierge, dont, sans aucun doute, la langue brûlait, guettait avidement son passage. Il fit de la main un signe comme pour dire « Allez-y maintenant, vous pouvez tout raconter aux bonnes commères qui attendent et savent déjà la plus grosse partie du secret. Votre supplice du silence est fini. »
Comme nous arrivions sur le trottoir, Martin Huma tressaillit. « Qu'y a-t-il ? » lui demandai-je.
Il me prit le bras, se pencha sur moi pour me parler à voix basse.
« Mon cher Courville, vous allez pour une fois être policier et me rendre service. »«
Très volontiers. »«
Ne vous retournez pas, ce n'est pas la peine. »« Écoutez-moi bien, vous m'entendez ?»«
Parfaitement. » »«
Et je ne tourne même pas les yeux. » »«
C'est très important, nous sommes pistés. » »«
Comme vous le supposiez. » »«
Suivi, espionné. »
Nous ne les avons pas déroutés.
Allons donc.
Croyez-moi,
ne vous tournez pas. Je vous en conjure. Vous donneriez l'éveil.
Alors, que dois-je faire ?
Attendez. Procédons par ordre. Écoutez-moi.
Sur le trottoir d'en face se trouve un homme, brun, trapu, assez élégamment vêtu.
C'est lui qui nous surveille ?
C'est lui.
Qui peut vous faire dire cela ?
Cet homme se tenait sur le trottoir opposé quand nous sommes sortis de la banque Castanier pour venir ici.
« Oh, en êtes-vous certain ?
Vous savez que j'ai de bons yeux.
Il nous a vu sortir de la maison du banquier Castanier. À présent, il se trouve encore sur le trottoir opposé
quand nous sortons de la maison de Charles Castanier.
Ce n'est nullement un fait du hasard.
Non, en vérité.
Donc, cet homme a mission de nous pister.
Nous devons d'ailleurs nous en assurer.
Bien. Moi, je vais continuer ma route. Vous, vous allez remonter la rue. Vous vous retournerez au bout d'une vingtaine de pas. Puis vous suivrez le bonhomme tant qu'il me suivra, sans vous faire remarquer. Si je prends une auto, prenez-en une aussi.
Entendu.
Un bureau de tabac se trouvait non loin de là. Il m'y fit entrer avec lui. Il acheta 2 cigares, m'en donna un, et tout en m'entraînant vers l'allumoir, se trouvant, comme dans tous les bureaux de tabac près de la porte, il me désigna encore notre homme qui, très inquiet, stationnait sur le trottoir opposé, surveillant l'entrée du bureau de tabac.
Vous le voyez bien ?
Me demanda-t-il.
« Parfaitement.
Vous ne pouvez vous tromper.
Maintenant, non, je le tiens.
Bon. Alors, nous allons nous dire au revoir sur le trottoir, très simplement, comme si nous nous quittions. Moi, je vais continuer en descendant. Lui, il va me suivre. Et vous le filerez sans qu'il s'en doute. »
Tandis que nous parlions sur le trottoir, que nous serrions la main pour nous dire au revoir, 2 taxis à vide passèrent devant nous. Des passants firent signe au chauffeur.
« Je vais au garage, » dit le premier.
« Je rentre, » fit le second. « Plus d'essence. » Et majestueusement, avec ce dédain auguste des chauffeurs parisiens pour les malheureux piétons, ils continuèrent flegmatiquement leur route.
Martin Huma, son cigare aux lèvres, lançant ses bouffées de fumée comme un homme paisible qui ne prépare aucun projet mystérieux, descendit sans trop se presser la rue d'Amsterdam. De l'autre côté du trottoir, l'homme brun descendait à la même allure. J'avais fait quelques pas en remontant, puis,
Entrant dans un corridor, j'en étais ressorti aussitôt pour redescendre la rue. C'était un moyen que m'avait indiqué Martin Numa pour ne pas donner l'éveil. Un homme qui, brusquement, change de direction, revient sur ses pas, est toujours remarqué, attire l'attention. Dans mon cas, l'important était surtout de passer inaperçu. Je descendis donc la rue, me tenant à 20 pas tout au plus de l'homme brun qui suivait Martin Numa. Je trouvais, à vrai dire, un certain plaisir à filer à mon tour cet homme qui en épiait un autre. Cette sorte de chasse n'est pas sans procurer de l'émotion, et je goûtais à ce moment l'attrait qu'éprouvait mon brave ami lancé à la poursuite de ce qu'il appelait son gibier de potence. Depuis 3 ou 4 minutes à peine, je marchais derrière le mystérieux homme brun, tout en apercevant une 30aine de mètres en avant Martin Numa, quand le détective tout à coup s'arrêta. Martin Numa, d'un air absolument tranquille et posé, tira sa montre et regarda l'heure. « Sapristi, sembla dire sa mimique, je suis en retard. » Le premier taxi se trouvait presque à côté de lui. Il fit signe au chauffeur. Et le chauffeur qui allait au garage, selon ses déclarations de tout à l'heure, s'arrêta presque aussitôt, se rangea complaisamment le long du trottoir. Martin Numa parlementa quelques secondes avec lui, puis ouvrit la portière et s'engouffra dans le taxi. Le second taxi, sans essence, s'était dans une manœuvre à droite rapproché du trottoir opposé et se trouvait à la hauteur du mystérieux homme brun. Celui-ci aussitôt héla le chauffeur, qui tout à l'heure refusait de charger. Très complaisamment, l'homme du volant s'arrêta. Les mots que l'homme brun prononça parvinrent à mes oreilles. « 100 francs pour vous si vous suivez cette voiture. »« Très facile, monsieur le baron. Montez. » L'homme brun entra dans le taxi qui s'éloigna aussitôt, et je vis le mystérieux personnage, penché par la portière, qui continuait sa filière tout en roulant, et s'assurait par lui-même que son chauffeur ne perdait pas de vue le taxi qu'il fallait suivre. Je me trouvai un moment très perplexe, très embarrassé quand je m'entendis appeler « Monsieur Courville, hop, vite, embarquez-vous !» À côté de moi, rangé le long du trottoir, se trouvait un troisième taxi, que je crus sur le moment comme dans une féerie sortie de dessous terre. Ainsi que dans les contes de fées encore, ce chauffeur connaissait mon nom, et probablement aussi savait où il devait me conduire. Je n'hésitai pas, et sautai dans le taxi, qui roula sans que j'aie dit autre chose que ces mots, résumant toute ma pensée dans cette situation. « Ça va, marchons !» Donc, les trois taxis se suivant, s'épiant, descendirent vers le centre de Paris. Ils franchirent le boulevard Haussmann, puis les grands boulevards à la hauteur de la place de l'Opéra. Au moment où mon véhicule entrait dans la rue de Rivoli, tout à coup il dut s'arrêter devant le bâton blanc d'un sergent de ville. Je regardais par la portière. Mon chauffeur était le premier arrêté par le représentant de l'autorité, et furieux, il parlementait avec le détenteur du bâton de commandement. « Mais laissez-moi donc passer pour le service !» Le gardien de la paix, gros homme à barbiche énorme, raide, dur, n'avait qu'une consigne et ne comprenait pas autre chose. « Service que je te dis !» lui répétait mon chauffeur. « Service !» Grave, inflexible dans sa barbiche, le sergent de ville répondit « Il n'y a pas de service, la loi est pour tous. »« Imbécile !» ne put s'empêcher de dire mon homme. « Si tu rouspètes, répliqua le bâtonnier de la paix, je te fais conduire au poste. » Mon chauffeur éclata de rire, celle-là serait trop bonne. De mon côté, connaissant le fond des choses, je partis également d'un éclat de rire. Mon chauffeur, qui était assurément un agent de la sûreté, conduit au poste par un autre agent, pour avoir voulu remplir une mission de police. C'était drôle, en effet. Quand, au bout de quelques minutes, le déblaiement, toujours difficile en cet endroit, se fit, nous pûmes enfin reprendre notre course. Peu après, nous pénétrions dans la cour du dépôt, ayant rattrapé les deux autres taxis. La porte, qui allait se fermer, ne s'entr'ouvrit que sur un signe de mon chauffeur pour me laisser passer et se ferma derrière moi. Je vis Martin Numa parler à deux agents accourus quand il sauta à terre. Je descendis de ma voiture et, pressentant une manœuvre de police, je me tins un peu à l'écart pour mieux voir. Les deux agents se portèrent de chaque côté de la deuxième voiture, celle qui contenait le mystérieux homme brun. Martin Numa avait les cils contractés, un pli d'anxiété autour de sa bouche. « Tu peux ouvrir, » dit-il au chauffeur de la deuxième auto, quand les agents se furent placés devant chaque portière. Le chauffeur appuya sur la lanterne droite qui s'inclina et tourna. Aussitôt la portière de droite s'ouvrit. « Descendez, » fit l'agent, en étendant les mains comme pour saisir quelqu'un dans l'intérieur. « Descendez. » Mais personne ne descendit. Dans le taxi, rien ne bougea. Martin Huma, très calme généralement, tapa du pied dans un geste de colère.
« Je m'en doutais, » fit-il. « Il s'est échappé. »
« Cependant, chef, j'ai bien fermé la portière. Il ne pouvait pas s'en aller. Il est parti quand même. » Tournant les yeux vers moi, Martin Huma m'interrogea. « Vous n'avez rien vu ?» Je lui racontai l'incident de la rue de Rivoli, notre arrêt devant le bâton blanc. « C'est pendant ce temps que l'homme a pris la fuite. » Martin Huma alors s'approcha du taxi et l'examina. Il fit fonctionner le mécanisme. Tout marchait à souhait. Quand le chauffeur appuyait sur le ressort placé près des lanternes, il était impossible d'ouvrir les portières. Pour s'échapper, il fallait briser une vitre. Mais sauter par cette issue était des plus dangereux, presque impossible. Un homme ne sortirait pas par le cadre de la vitre, par la portière non ouverte. Martin Huma passa alors derrière la voiture. « Voilà, » dit-il, « par où il est sorti. » Le cuir de la capote, qui est cloué au bois de la caisse, était découpé très nettement au ras de cette caisse. L'entaille remontait le long de l'armature qui va soutenir le dessus du taxi. Il y avait un triangle de cuir soulevé, une ouverture permettant à un homme de passer très aisément.
« C'est cela, » fit Martin Huma.
« En route. » Voyant où nous dirigeons, il a voulu s'en aller. La course devenant inutile. Les portières ne pouvant s'ouvrir, il a compris qu'il était prisonnier, que nous l'avions deviné, que le taxi était à nous, bref, qu'il était pris au piège. Il a voulu fuir. Il porte aussi une trousse sur lui. Tranquillement, il a découpé le coin de cuir. Sauté alors sur la chaussée, en passant sur les quais, à peu près désert, n'était plus qu'un jeu pour lui. Bref, il nous glisse entre les doigts. Martin Huma, après un court silence, me dit « Cela m'indique que les criminels que nous cherchons ont leur police aussi, et que nous aurons affaire à très forte partie. Tant mieux !»